I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et voilà, je sais, désolé, vous en avez pour toute la journée avec cette chanson dans la tête désormais. Et puis je pourrais vous la mettre en anglais, en néerlandais, en japonais, en polonais et j'en passe, parce que je vais pas vous citer les 25 langues dans lesquelles cette chanson est traduite. Rien que ce chiffre est une preuve du phénomène mondial qu'est devenue la Reine des Neiges. Et qui dit phénomène mondial, dit haters florissants autour du monde. Et ça tombe bien, on en a une chez Mademoiselle qui a voulu coller un procès à Elsa, Anna, Olaf, Christophe et compagnie. Bienvenue dans Affiché.
Boys, take his gun.
Quand on a une plage dans la tête.
What you got between your legs is your business, and what I got is mine.
You may not be able to fight like a samurai.
So fat.
But you can at least die like a samurai.
Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
Empieza el matriarcado. Dracarys.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau procès de film de ce merveilleux podcast qui est Affiché. Je suis Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Manon, journaliste pour Mademoiselle et Daron, et Mimi, rédac-chef de Mademoiselle, mes deux avocates du jour. Et moi, bien sûr, je serai comme d'habitude la juge impartiale.
C'est vrai, votre honneur, vous êtes toujours impartiale et
faux,
vous faites des très bons choix.
Elle est biaisée dès le départ. Alors, je sens qu'il y a une lèche-cul et une autre.
Il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes, c'est tout ce que je pense.
Donc bonjour à toutes les deux, et est-ce que vous pourriez vous présenter pour qu'on identifie un peu vos voix et préciser si vous êtes de l'accusation ou de la défense, Mimi ?
Tout à fait, je suis donc Mimi Hegel et cette douce voix sera celle de l'accusation, car je hais le film dont nous allons parler aujourd'hui, il faut le savoir.
Qui est La Reine des Neiges ?
Oui !
Je suis Manon Portanier, je suis rédac parentalité, donc les dessins animés c'est un peu mon truc. Et bah forcément, je suis pour la défense de la Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'il y a ?
Eh ben, merci à toutes les deux. Je sens qu'aujourd'hui, ce sera un combat de titans, certainement dans la street. Je rappelle juste qu'il s'agit d'un procès donc en trois parties, avec d'abord l'instruction, le retournage de cerveau, puis le jugement. Et avant de commencer, je vais vous rappeler ce que c'est que le phénomène de la Reine des Neiges, parce que oui, on peut parler d'un phénomène. Est-ce que vous avez une idée du niveau de rentabilité, chères avocates, de ce dessin animé ?
Je dirais, j'essaye de me rappeler si j'ai en tête des chiffres qui pourraient être pertinents, tu vois. Je dirais qu'il a rapporté 300 millions.
Plus d'un milliard de dollars.
Allez,
wow. Au revoir, madame. Mais La Reine des Neiges, c'est pas que ça, c'est aussi 1 million d'albums vendus de la BO en seulement quelques mois. C'est devenu vite le DVD / Blu-ray le plus vendu de toute l'histoire sur Amazon, et ça a déclenché un phénomène massif, enfin un phénomène d'identification massif auprès des très jeunes filles et des moins jeunes aussi. Le scénario derrière un tel succès, c'est l'histoire d'Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu'optimiste, qui se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Christophe.
Christophe.
Un montagnard.
Christophe. En Alsace.
Les Suédois, allez, calmez-vous.
Aïe, ah, c'est le Christophe. Il va casser des glaçons.
Le podcast problématique des minutes 2.
J'ai le droit de faire l'accent alsacien, je suis alsacien.
Oui.
Mais je le fais très mal, désolé à mes compatriotes.
Donc Christophe, c'est un montagnard expérimenté, ça tombe bien puisqu'on est dans la neige. Et son fidèle reine, c'est Sven, qui est à la recherche de sa sœur Elsa, la Reine des Neiges, qui a plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel. En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf. Braver les conditions extrêmes de sommets escarpés et glacés et affronter la magie qui les guette à chaque pas. Et donc, si tous les enfants s'arrachent tout le merch de la Reine des Neiges depuis 2013, en ruinant leurs parents, ou en se ruinant eux-mêmes, parce que ça existe, les grands enfants, ce n'est pas le cas de la petite Mimi, qui clame haut et fort que c'est quand même beaucoup de bruit pour rien. Une histoire toute pétée pour la cité.
Il est possible que dans mes notes, j'ai écrit de façon très professionnelle une histoire toute pétée. Tout à fait votre honneur.
Mais Manon sera là pour prendre la hauteur et les plaintes de Mimi pourront paraître insignifiantes. Elle saura défendre la magie du froid qui est le prix de la liberté. Est-ce que ça va? Je suis à peu près dans, le, dans les clous.
On reparlera de cette réplique. J'ai une anecdote, succès Reine des Neiges,
oui, bien
qui
sûr.
Je pense est véridique. Oui. À googler chez vous. Il me semble que le succès de La Reine des Neiges, au-delà du fait que c'est une super prod Disney et tout, s'explique en partie par le fait que c'est le premier film Disney pour lequel Disney a arrêté de jouer au con et de striker les vidéos YouTube qui utilisaient les chansons
tout
Disney.
Tout à fait.
Ils ont changé de strat et ils ont décidé de mettre leurs chansons en hyper bonne qualité sur YouTube, sur leur chaîne officielle avec les paroles et tout. Ce qui fait que le potentiel viral de Libéré délivré et de Let It Go a été démultiplié par rapport
exactement,
à une autre
ouais.
période où c'était très chiant de mettre des sons Disney sur YouTube. Donc, ils ont été malins.
Ouais, c'est vrai, et c'est tout à fait vrai, et ça a fait des millions et des millions de vues, de covers, de machins, de trucs. Enfin bon, c'était un
on
délire.
Se souvient.
Souvenez-vous, puisque si vous avez écouté le début de cet épisode, vous avez désormais la chanson dans la tête jusqu'à la semaine prochaine.
Bisous.
Bon, allez, et si on commençait ce procès pour que vous nous expliquiez un peu tout ça? C'est parti pour l'instruction.
Round 1, fight.
Voilà, c'est l'heure de l'instruction. Je rappelle, maître Mimi, maître Manon, que pendant l'instruction, vous allez établir votre rapport au film, comme d'habitude. Vous engagerez chacune votre tour dans une diatribe ou une apologie du film, selon votre rôle. Je vous demanderai de laisser l'autre parler. Bien sûr, vous pouvez demander une objection, à mon honneur. Et la mauvaise foi est totalement acceptée, voire encouragée. Maître Mimi, à l'accusation, c'est à vous.
Merci, votre honneur. Chers consoeurs, chers publics, je viens ici accuser le film La Reine des Neiges, qui le mérite bien. Pour commencer avec, vous le savez, un petit peu de contexte, je pense avoir sincèrement donné à La Reine des Neiges le plus de chances possible de me plaire, puisque je l'ai regardé dans des conditions optimales.
Quelle mauvaise foi !
En repassant les chemises de mon papa et de ma maman chez mes parents, à un endroit de la maison où il n'y a pas de wifi et où on a donc très peu de choix sur ce qu'on peut regarder pendant ce temps-là, je n'avais plus de podcast, je n'avais plus de série. J'ai vu qu'on avait La Reine des Neiges, j'ai dit « c'est quoi, vas-y, au moins je l'aurais vu ». Et je saurais de quoi parlent tous les gens. Et bien, sachant que même pour se distraire en repassant, c'est extrêmement chiant comme film. Voilà, j'ai passé un très mauvais moment, je dois le dire.
Tu l'as regardé en quelle année?
Quand il était sorti en DVD ou Blu-ray, donc je dirais un an ou deux après. Donc
en 2014, quoi.
Voilà, je savais le phénomène. J'avais déjà évidemment bouffé Libéré délivré à toutes les sauces que Dieu fait. Mais j'avais un peu par... le fait que le film ne m'intéressait pas de base et par réaction à cette hype décidé que je n'allais vraiment absolument pas le voir au cinéma.
Et ce genre,
je suis évidemment ce genre de personne. Et il faut dire aussi que depuis que j'ai un petit peu grandi et que je ne suis plus une enfant, j'aime toujours beaucoup les films Disney, mais c'est assez rare que je me déplace pour les voir en salle parce qu'il y a toujours en plus beaucoup d'enfants dans la salle.
Ah ouais.
C'est toujours blindé,
ils parlent en plus pendant
ils parlent et tout,
ils mangent.
C'est très bien qu'ils vivent leur meilleure vie, mais perso, je préfère me mettre dans des bonnes conditions comme regarder un film en repassant sur une petite télé cathodique de 2004. Donc, le problème avec La Reine des Neiges, c'est que ce film fait quelque chose à son public qui est, je trouve, assez peu agréable, c'est-à-dire qu'il nous manque de respect en permanence, à la fois à son public adulte et à son public enfant. Puisque La Reine des Neiges, c'est globalement Disney qui s'est dit « on va prendre des ingrédients qui marchent bien, on va pas trop taffer autour, on va juste tout mettre dans un mixeur ». Faire les liens les plus grossiers pour relier les bouts de notre histoire qu'on a décidé qu'il nous fallait parce que ça fait des scènes qui claquent chez Disney, tout emballer dans un film et faire $1 milliard. Et le pire, c'est que ça a marché. Il y a absolument...
Un milliard de dollars.
Il y a beaucoup de choses dans La Reine des Neiges. Il n'y a pas la crédibilité. Il n'y a pas la cohérence. Il n'y a pas de logique dans cet univers.
Objection.
Allez-y.
Il n'y a aucune cohérence dans... Enfin, dans... Quel Disney est-ce qu'il y a une cohérence? C'est pas La Reine des Neiges, le problème, c'est les Disney.
Dans Aladdin, par exemple, pouvoir magique, cohérence. Le génie dit, tu as 3 pouvoirs, voilà ce que tu ne peux pas faire. Et ces règles se tiennent pendant tout le long. Les pouvoirs de, je sais jamais laquelle elle sait, parce que, guess what, elles ont les mêmes chara-design. Disney n'a absolument pas bossé.
Je ne sais jamais laquelle est laquelle.
Un modèle 3D, ils l'ont dupliqué, ils ont changé les cheveux, ils ont dit, voilà, on a 2 héroïnes. Et ça, franchement, encourager une telle flemme,
c'est son sœur,
j'aime pas. Et alors, il y a plein d'autres sœurs, les sœurs de Cendrillon, là, les 3 méchantes.
Cendrillon.
Ou de La Belle au Bois Dormant, je ne sais plus laquelle. Non, Cendrillon.
Cendrillon.
Elles sont très différentes et pourtant elles sont sœurs.
Et pourtant,
donc, Disney sait faire ça. Je ne dis pas que j'ai leur prénom, mais je sais qu'elles se ressemblent.
Anastasia
pas.
Et
Anastasie.
Javotte.
Et Javotte.
Bravo. Anna, Elsa, qui est la méchante, qui est la gentille, je ne sais pas. Y a-t-il une méchante? On ne sait pas vraiment parce que finalement Disney ne prend pas trop de risques. On va dire celle qui a des pouvoirs et celle qui n'a pas de pouvoirs. Pour l'instant, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Il n'y a pas de cohérence dans les pouvoirs du coup de celle qui a des pouvoirs, puisque parfois. Elle crée tout un palais en 2 secondes et elle enneige l'intégralité de son royaume en 2 secondes. Ensuite, les gardes viennent la chercher dans son palais de glace. Et là, elle prend la fuite. Peut-être. Crée un mur, en fait, pour les bloquer. C'était très facile pour toi. Elle cavale dans tout le château pour leur échapper avant de les bloquer. Vraiment, elle a une puissance qui est démesurée dans ce royaume. Vraiment, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle pourrait les geler sur place. Elle pourrait geler leurs chaussures.
C'est la Captain Marvel.
Elle ne va pas leur faire de mal, c'est pas une
Non, mais geler leurs chaussures. Alors, elle ne veut pas le... Elle a créé un golem de glace, ok. Elle a enneigé l'intégralité de son château, où, je tiens à le rappeler, pour un château scandinave, tout le monde était en t-shirt hein, jusqu'ici, vraiment, le couronnement, c'est la fête,
c'était
il fait pas
été,
trop frais.
C'était le couronnement, évidemment.
Manon, je vais vous demander de laisser parler l'accusation.
Pardon.
Donc, on a un problème de base de cohérence des pouvoirs, parce qu'en plus de tout ça, visiblement, on peut aussi créer un bonhomme de neige qui parle. Mais une fois. C'est-à-dire qu'on va pas créer vraiment d'autres êtres magiques doués de conscience et de parole, mais on va le faire une fois parce que Disney veut cocher la case sidekick rigolo. Et comme les gens visiblement ne sont pas exigeants, ils ont dit « Ah, trop bien, on adore vraiment Olaf !» qui est peut-être quand même le pire sidekick rigolo de l'histoire de Disney.
Je suis totalement d'accord.
Voilà, c'est peut-être subjectif, je ne vais pas argumenter là-dessus, c'est juste un fait. J'ai noté quelques preuves de cette incohérence que je vous propose de vous donner en mitraillette afin que vous compreniez le niveau de problème.
Au niveau mitraillette.
J'adore.
Nous commençons par « Oh là là, la magie, c'est vraiment très surprenant. Notre fille a des pouvoirs. Ça n'arrive jamais dans un monde où il y a des trolls magiques. Bizarre. Notre fille a des pouvoirs, dire. Enfermons-la. Personne ne s'en rendra compte, c'est juste la princesse du royaume. La blague, c'est qu'on aurait juste pu lui mettre des gants et elle n'aurait plus pu utiliser ses pouvoirs. On la prendra plus tard. On l'a quand même enfermée pendant quelques décennies, histoire d'avoir... une successeuse au trône bien stable en termes d'état mental et tout.
Oui,
genre, il
n'y
a pas
fait.
De risque qu'elle parte en couille. Parlons maintenant de celle qui n'a pas de pouvoir, du coup, Anna, Elsa, je ne sais pas. Qui donc, le jour du couronnement, se dit « Ma sœur que je n'ai pas vue depuis des décennies et qu'on couronne aujourd'hui reine du royaume, à savoir chef de moi et chef de tout le monde. C'est très intéressant, mais je préfère niquer des gars. Allons donc plutôt parler de l'intégralité des gars que je pourrais ken pendant ce couronnement. Et on va vite fait discuter de chocolat avec ma sœur que, rappelons-le, je n'ai pas vu depuis des décennies, ce qui est un trauma fondateur pour moi en tant que personne et pour elle. Mais on ne va pas vraiment en parler.
Objection, on ne parle pas de, forcément de décennies, mais peut-être d'un peu moins de 15 ans. Je précise.
Ce qui est plus d'une décennie, c'est du pluriel,
c'est
ça
marche. Détail.
C'est long 15 ans. Vraiment, il y a des films avec des gens enfermés 15 ans, ils ne vont pas bien à la fin.
Ouais.
Celle qui a des pouvoirs, là, elle
oui,
est quand même en forme,
je trouve. C'est pas des
hydraté.
Films de gens stables. C'est
en
le,
même
ce
temps, un
film.
Confinement dans une grande chambre comme ça, bon... C'est moins pire que dans ton 50 mètres carrés parisien. C'est peut-être pour ça qu'elle a une meilleure santé mentale, on ne sait pas.
Faites une expérience sociologique chez vous. Enfermez votre sœur pendant 15 ans en lui disant même pas trop pourquoi, tu vois. Genre vraiment, il n'y a pas tant de formation et de pédagogie. On aurait juste pu lui dire, ne demande pas à ta sœur d'avoir des pouvoirs, puisque de toute façon, ils effacent la mémoire, les trolls magiques, rappelons-le, de la gamine qui n'a pas de pouvoir. Donc en fait, il n'y avait plus vraiment de risque. Vraiment, cette décision, il faut... qu'il y ait cette décision pour que le scénario marche. Le problème, c'est que si tu construis ton scénario sur une base qui n'a pas de sens, personnellement, je ne rentre pas dans ton film. Donc déjà, à ce moment-là, j'avais du mal. Ensuite, on a « Oh non, je viens de laisser mes pouvoirs m'échapper. » Option 1, j'explique ce qu'il vient d'arriver et je demande de l'aide. Rappelons-le, on est dans un monde où la magie existe, ça doit arriver. Option 2, je devienne fou, je m'en vais, je construis un palais de glace. Ok, film, faisons ça.
Ok, film.
On a évidemment les pouvoirs magiques sans aucune cohérence qui font juste ce qu'on a besoin qu'ils fassent à ce moment-là du film. Très pratique. Disney qui fait un film où la princesse ne tombe amoureuse que après au moins 10 minutes de film. Le monde entier a trouvé ça incroyable et groundbreaking. Vraiment, la barre est basse. Exigeons un peu plus dans la vie, merci. Olaf, j'ai noté, merci de le mettre dans un volcan. Cid de l'âge de glace est déjà arrivé il y a 15 ans. Il faut arrêter maintenant. C'est vraiment le même perso, mais plus moche. Alors, Cid était déjà un peu chum à la bite.
J'adore Cid.
Je supporte pas Cid. J'ai envie de lui mettre des très très grosses
claques. Je supportais déjà pas de ouf Cid, mais alors Olaf qui a un Cid réchauffé au micro-ondes marque pouce. C'était compliqué. Et qui en plus passe sa vie à se balader alors qu'il sait pas ce qui va le faire fondre, etc. Ça n'a aucun putain de sens. Et on a donc Anna et Elsa, j'ai noté leur nom, je ne sais pas qui est qui, qui sont le même chara-design, mais aussi Sven, qui, je suis désolée, c'est le cheval de réponse à qui on a mis des bois, puisqu'il a exactement la même attitude de sidekick rigolo animal qui se comporte comme un chien, qui est apparemment ce que Disney a décidé de faire pour rendre ses animaux rigolos. Et c'est la même chose avec des bois. Il y a vraiment très peu d'efforts
qui Disney,
ont été
faits. Mais Disney, c'est un peu les... Ils font souvent ça. Ils reprennent. Même, il y a des scènes carrément reprises. Alors, c'était la scène de danse dans Robin des Bois et dans... Je sais plus quel autre film. Voilà,
non, mais réutiliser des assets en animation, ça se fait beaucoup. Et surtout à l'époque de l'animation 3D, effectivement, si t'as déjà peint un perso qui danse sur une branche d'arbre, t'as mieux fait de repeindre dessus pour changer les vêtements du perso et en faire un autre que de tout repeindre du début, parce que ça fait beaucoup de temps à passer. Ça s'explique un peu moins avec la 3D, même si on peut réutiliser des assets. En fait, on peut réutiliser typiquement Anna et Elsa. C'est le même chara-design avec quelques variations. C'est pareil pour le cheval, mais tu peux changer leur attitude quand même. Tu vois, ça peut être physiquement ressemblant, mais tu peux essayer de créer un autre type de sidekick rigolo. Je pense que pour ce film, il y avait beaucoup de RTT, tu vois, au moment de la conception, de l'écriture du scénario. Et ils se sont dit, bon, on va faire avec ce qu'on a, tu vois. C'est un peu... Non, mais je comprends, c'est Disney, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et enfin... Le plus grand crime peut-être qu'a commis Disney avec ce film, c'est de ne pas avoir les balls de faire ce qu'ils auraient dû faire, à savoir de faire en sorte que celle qui a des pouvoirs devienne la méchante du film, parce que c'est ce qui arrive quand on enferme quelqu'un qui a des pouvoirs magiques pendant 15 ans sans lui expliquer pourquoi, et qu'en plus après on la couronne reine. Vraiment, a priori, c'est Dark Vador, le gars. Faites un truc courageux, faites une méchante qui est intéressante, parce que je suis désolée, mais Hans, ou je sais pas qui, là, il est nul à chier, il est pas intéressant comme méchant. Et encore une fois, il n'y a aucune cohérence. Vraiment, la reine disparaît, lui, il dit, t'inquiète, je gère, et du coup, c'est son plan pour prendre le royaume, genre, mais en fait, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de chancelier, il n'y a pas de vizir, il n'y a rien du tout, vraiment, c'est la personne qui est dans le château qui est roi, c'est comme ça que ça marche, c'est ça son plan en tout cas, et il passe pas très loin d'y arriver, donc bravo à lui. Mais on manque de méchants intéressants et d'antagonistes intéressants, ce qui est dommage parce que Disney arrive à en faire quand même, qui sont souvent très cool, les méchants Disney, c'est assez culte. Et en fait, ils avaient une porte énorme pour faire une bonne méchante, avec celle qui a des pouvoirs, et avec un arc de rédemption et de réconciliation du méchant à la fin, c'est hyper intéressant. Mais non, ils ont décidé que l'amour entre deux sœurs, c'est vraiment plus beau, ce qui fait un gloubi-boulga où les enjeux sont assez flous, on ne sait pas vraiment... Elle pète un câble, elle s'en va, sa sœur la suit. Alors, sa sœur, elle a pas de pouvoir, mais elle est quand même très résistante au froid, je trouve, pour une personne qui devrait être en hypothermie minute 4. Mais ok, c'est un Disney, je veux bien. Qui cavale, qui rencontre Jean-Michel, coupeur de glaçons, qui, lui, heureusement, connaît les trolls magiques du royaume que personne ne connaît, puisqu'apparemment, personne ne sait qu'il y a de la magie, alors que les trolls vivent chez eux, mais ok.
Non, mais il y a magie et magie aussi.
Bah, quand t'as des trolls magiques, est-ce que c'est vraiment inimaginable de dire « Tiens, notre fille a l'air de pouvoir faire des glaçons avec ses doigts ?» Tu vois, genre, tout est possible, pourquoi pas ? Mais non, tout le monde a paniqué. Et donc, on a Elsa qui part dans Wana, je sais plus, enfin bref, celle qui a pas de
pouvoir.
C'est
ta lettre de motivation pour postuler en tant que scénariste chez Disney ?
Ah mais vraiment, appelez-moi, je pourrais pas faire pire, je veux dire, c'est pas mon travail, mais donnez-moi vos scénarios et je vous mets des annotations, tu sais, genre rouge ou vert et tout, et puis je vous fais des petits liens logiques, vous me donnez un énorme chèque, et tout le monde passe un meilleur moment devant Frozen, je pense. Voilà, donc, crime principal, irrespect total de son public, et je tiens à dire quand même, y compris des enfants, parce que c'est pas parce qu'on est enfant qu'on peut pas comprendre une histoire un peu logique et un peu bien construite. Donc pour moi, il y a un vrai côté flemme de « on va mettre tous les arguments marketing et vraiment pas se faire chier à faire une histoire qui tient la route », ce qui est dommage parce que Disney, leur spécialité, c'est quand même généralement les belles histoires. On va mettre une chanson ultra catchy dessus, on va la foutre sur YouTube en 4K, et ça marche, donc qui peut les blâmer finalement ? Mais ça ne passera pas chez moi.
Ok, voilà. merci beaucoup à l'accusation, Mimi. C'est vrai que ça existe quand même beaucoup, les films d'animation qui sont et pour les enfants et pour les parents. Et ouais, c'est vrai que La Reine des Neiges, bah moi je m'en souviens un peu parce que je l'ai vu une ou deux fois, mais je me souviens pas de m'être dit, putain, ça c'est des blagues pour les parents, ça c'est des blagues pour les enfants, ça c'est, enfin tu vois, j'ai l'impression que c'était un peu
comme dans Shrek. Il y a pas mal de trucs comme ça.
Ah mais Shrek, bon.
On fera afficher sur Shrek. Mais il faut trouver quelqu'un qui n'aime pas Shrek.
Ouais, ouais c'est dur. Mais sinon, je ferai juste une demi-heure de Shrek puisque je le connais par cœur.
Ah oui, c'est vrai que Alix peut faire Shrek d'un bout à l'autre. Bravo, votre honneur, vous avez tant de qualités.
Merci beaucoup.
Non, juste pour finir là-dessus et prouver ma bonne foi.
Oui.
Pour le coup, je trouve que Disney s'est très bien rattrapé avec La Reine des Neiges 2 que j'ai vu. Car je ne veux pas rester sur une mauvaise impression et que, encore une fois, je me faisais chier.
Quel professionnalisme, maître Mimi.
Celui-là, je l'ai regardé sur mon ordi en me rasant les jambes, pour vous donner une idée de à quel point je me suis impliquée. Mais il se trouve qu'il est déjà très marrant, alors qu'il n'y a rien qui m'a fait rire dans le premier. Toutes les blagues, en fait, tous les ressorts comiques, quasiment, c'est Olaf et... ou le renne chien, et ces deux personnages ne m'intéressent pas, comme je l'ai déjà dit. Le 2 est très marrant, Olaf m'a fait rire dedans, alors que je le haïssais, et je trouve qu'ils arrivent beaucoup plus à faire cet équilibre, blague pour les enfants, blague pour les adultes, deux niveaux de lecture, où du coup tu passes un bon moment. Mais je n'ai pas de souvenir de si l'histoire est plus cohérente, donc on va partir du principe qu'elle ne l'est pas forcément.
Voilà. Car vous êtes l'accusation, maître Mimi.
C'est ça. Je suis pas là pour faire des cadeaux.
Merci beaucoup pour cette... Pour cette plaidoirie, ma foi, assassine, vous aviez promis de la mitraillette, eh bien, on n'y a pas coupé. Manon, maître Manon, vous êtes du côté de la défense. Quelle sera votre plaidoirie aujourd'hui ?
Ma plaidoirie, c'est que face à une telle avalanche de mauvaise foi...
Avalanche, le mot est bien choisi.
Pop, pop, pop.
C'est pertinent ce que vous dites, votre honneur.
Je suis quelque peu dubitative, j'ose employer le mot, face à la méconnaissance qui semble... assez ouais, c'est un peu du nawak de qu'est-ce que t'as vu comme film.
Alors, objection, j'ai expliqué en intro que j'ai très bien suivi. Non, je me souviens de
je
toute l'histoire.
Je pense que t'as fait plus attention aux plis des chemises qu'à ce qui se passait réellement dans le film.
N'hésite pas à m'expliquer la cohérence de cette intrigue.
Alors, j'ai découvert La Reine des Neiges à la sortie en DVD, donc peut-être ouais, comme Mimi, un an ou deux ans
après.
Ah ouais,
t'es pas allée au ciné.
Non, parce que je n'avais pas encore d'enfant et que j'avais autre chose à foutre que d'aller voir des Disney au ciné, parce que, comme Mimi le disait tout à l'heure, je préfère voir ça dans mon canapé en mangeant des chips que dans une salle blindée de mômes qui parlent et qui parlent beaucoup trop. Et du coup, non, j'ai vu ça en DVD avec ma nièce qui devait avoir, elle devait avoir 8 ans, je crois, à l'époque. Elle l'avait reçu pour Noël. Et on a passé 48 heures à le regarder deux fois par jour. Et j'ai survécu. Ouais. C'était vraiment intense. Ma nièce était fan. Moi, je n'avais pas vu ma nièce depuis un an. J'avais envie de lui faire plaisir. Elle voulait que je sois avec elle. J'étais avec elle. Je traînais pas mal sur Facebook pendant le film. Mais notamment, j'étais quand même avec elle. Ensuite, je l'ai redécouvert avec ma fille de 4 ans, puisque j'ai un cyclone qui vit chez moi.
Et qui c'est sa génération, tout à fait.
C'est sa génération qui est absolument fan de La Reine des Neiges, que ce soit les musiques, les films, le 1, le 2, peu importe.
Bah, j'ai rencontré ta fille récemment et elle m'a proposé de dormir dans un pyjama d'Elsa. Donc,
exactement.
Voilà. Moi, j'ai acheté son amour la première fois en lui offrant un petit snack avec une figurine La Reine des Neiges dedans. Oh là là. J'ai vu ça en caisse en achetant évidemment du vin pour les adultes. Et j'ai fait yes, je vais acheter l'enfant.
Ah, et ça a très bien marché. Ça a très très bien marché. Enfin, non, pas bizarrement, c'est totalement prévisible. Mimi est son idole, Alix est son idole aussi, du coup, vu qu'elle veut t'inviter à dormir à la maison, bienvenue quand tu veux. Bref, tout ça pour dire que La Reine des Neiges, j'en ai bouffé, je le connais sur le bout des doigts, et bizarrement, même après 254 visionnages à peu près, eh ben, je l'aime toujours autant. Pourquoi ? Peut-être parce que j'ai une âme, contrairement à Mimi, je pense que ça joue un petit peu, et sur le fait que, oui, ça manque de cohérence, mais oui, c'est un Disney. Excuse-moi, mais Tarzan, par exemple, si on prend de l'incohérence, hein, il vit dans la jungle, il n'a pas de barbe. Enfin, il y a un moment.
Ah non, mais tout est incohérent dans Tarzan. Le mec parle anglais. Mais alors, Tarzan, faisons afficher sur Tarzan, je reviens avec les mêmes arguments, il n'y a pas de problème.
Mais alors, vous savez qu'il y a une théorie comme quoi les parents de Elsa et Anna sont.
De Tarzan ou
ouais,
les parents de Tarzan
parce qu'ils
aussi. Ils sont morts en allant au mariage de Réponse. Ça, il me semble que c'est confirmé.
Ouais.
Mais c'était une théorie, le truc de Tarzan. Et il me semble qu'il y a un truc dans le 2 qui l'infirme. Oui, voilà.
Oui, fait que c'est pas vrai. Ouais. Dans le 2, on apprend qu'en fait, les parents s'étaient barrés en bateau pour essayer de comprendre l'origine des pouvoirs d'Elsa en allant sur une île à Talawan.
Encore une fois, n'hésitez pas à ne pas communiquer avec les personnes concernées sur vos projets, hein, parce que comme ça, ils vont bien être trauma. Les parents sont morts, on ne sait pas pourquoi. Ils faisaient une mission secrète pour toi, mais visiblement, ils sont morts. Voilà,
et
tu peux sortir de ta chambre maintenant du coup.
Elles sont complètement traumatisées, ces pauvres filles. Et je les comprends en même temps, mais qui sommes-nous pour les juger ? On est là à parler de Elsa et de Anna qui ont vécu enfermées dans un château pendant moult années, mais qui sommes-nous pour juger de leur capacité émotionnelle suite à ça ? Comment est-ce qu'on aurait réagi si on avait découvert que notre grande sœur, en fait, peut nous flinguer en moins de 2 secondes ? Comment on aurait réagi en tant que parent en découvrant qu'une de ses filles a un sérieux petit problème ? On peut pas en fait juger puisqu'on n'est pas à leur place puisque bah ça n'existe pas. Mais ça c'est
qu'un peu communiquer par contre.
Tu peux communiquer mais on ne sait pas non plus.
C'est une action qu'ils sont capables de faire.
Comment ils ont communiqué avec elle ? On a des bribes, de souvenirs, mais on n'a pas l'intégralité. On n'était pas là dans le texte.
Non mais celle-là qui a pas de.
Maître Mimi, Maître Mimi.
Elle arrête pas de me couper, s'il vous plaît, votre honneur. Est-ce que vous pouvez la bâillonner ?
Maître Mimi, laissons Maître Manon terminer.
Merci.
Son instruction.
Donc où j'en étais ? Je ne sais plus.
Pardon, sur le fait que j'ai pas d'âme et que finalement c'est cohérent, il paraît ou pas, mais c'est pas grave.
C'est cohérent comme n'importe quel Disney est cohérent. Je te parlais de Tarzan qui a pas de barbe, on peut parler de Cendrillon qui marche avec des chaussons en verre et qui en plus perd le seul qui est à sa taille. On peut parler de cohérence partout, de Réponse qui vit dans une tour et que personne ne retrouve. On peut parler de tout ça, de la mère de Rebelle qui se transforme en ours. Franchement, à quel moment c'est logique ce qui se passe ?
C'est un énorme spoil.
Le problème n'est pas que ce soit possible, le problème est d'avoir une cohérence interne à l'intrigue. Matrix, c'est pas possible, mais on comprend qu'est-ce qui fait que Neo peut ou pas contrôler des choses. Harry Potter, c'est pas possible, mais quand c'est cohérent, ça marche. Et les rares trucs incohérents, genre le retourneur de temps, ça a perturbé plein de gens parce que ça casse les règles de l'univers. Et le problème, c'est que quand l'univers n'a pas de règles logiques et que tout arrive juste parce qu'on a décidé que ça arrange le scénario, que ça arrive, personnellement, je ne m'implique pas parce que je ne me sens pas respectée par ce film.
Imagine, tes parents, tu vois tes filles, c'est la merde. Qu'est-ce que tu fais ? Tu en enfermes une autre parce que t'as peur, parce que tu comprends pas la différence, parce que t'es flippé, ce qui est quand même une super allégorie de plein d'autres choses, de la peur, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? On met de côté et surtout, on ne l'affiche pas.
C'est hyper maltraitant.
Bien sûr que c'est maltraitant, mais en même temps, il y a des trucs aussi qui sont hyper maltraitants. La belle-mère avec Blanche-Neige qui veut la faire flinguer, récupérer son cœur, c'est hyper maltraitant.
C'est vrai qu'historiquement, les parents dans Disney sont pas
c'est
dingues.
Ça. Et là, justement, je trouve que pour une fois, on arrive, en parlant des parents et du deuil, machin, à traiter le sujet d'une manière pas trop concon, où t'as pas besoin de t'étaler quand tu vois les parents qui partent en mer et qui disparaissent. Le deuil est abordé.
Alors, c'est une vraie question, c'est pas un troll, parce que je me souviens pas exactement, mais est-ce que cette question du deuil, finalement, elle est explorée plus que ça dans le film ? ou est-ce qu'on passe assez vite de nos parents sont morts à on a un autre problème maintenant et il faut plutôt raconter l'histoire de celle-là qui a des pouvoirs qui se redécouvre elle-même. Parce que j'ai pas souvenir d'un gros moment de waouh, nos parents ils sont morts, on va parler du deuil, tu vois.
C'est expliqué dans une chanson, dans effectivement, pardon, dans Le Bonhomme de Neige, tu sais, où tu la vois, t'appelles oui. la porte, machin truc. C'est sur cette chanson-là que les parents meurent, justement. Suite à la mort des parents, on voit Anna aller seule à l'enterrement de ses parents. Elle chante.
Celle-là qui n'a pas de pouvoir.
Oui, c'est celle qui n'a pas de pouvoir. Elle chante devant la porte de sa sœur qui est enfermée, qui est triste et qui ne sait pas comment réagir, où il y a de la glace partout. Elle lui dit maintenant, nous ne sommes plus que toi et moi, s'il te plaît, ne m'ignore pas. Et c'est hyper dur, en fait. Tu les vois se retrouver toutes seules sans parents. Les parents qui ne peuvent plus protéger Elsa, qui ne peuvent plus protéger Anna non plus.
Protéger, enfin, désolé, gros guillemets. Hein. Protéger.
Protéger, entre guillemets.
Beaucoup de gens qui ont protégé leurs enfants comme ça ont fini en prison quand même.
C'est pas faux. Mais continue, après, on ne sait pas.
Je trouve que c'est une légère exploration. Enfin, j'aurais peut-être préféré que le film aille plus dans. En fait, dans les Disney, les parents meurent toujours, clairement, mais ouais, on ne prend pas toujours. Enfin, c'est rare que le thème ce soit le deuil, parce que c'est hyper l'adepte, à part dans Coco, peut-être.
À part dans Coco, ouais.
Donc peut-être que ça aurait été intéressant d'explorer le deuil au lieu de faire des shenanigans avec des trolls.
Et pourquoi c'est bien ? Eh bien aussi, parce que pour une fois, ce n'est pas un Disney qui parle de prince charmant, même si c'est ce qu'on nous fait croire dès le début. Le mythe du coup de foudre et du mariage qui prend un coup. Et c'est une véritable évolution pour Disney. Rappelons-le quand même, Disney, Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois Dormant, où le prince charmant est le but à atteindre, le mariage est le but à atteindre. Là, le but à atteindre, c'est pas du tout ça, en fait. Même si Anna le pense au début parce qu'elle a été enfermée pendant moult années, en vrai, ce qui compte, c'est l'amour que tu peux avoir pour ta famille, pour ta sœur, c'est l'amour de manière générale, mais c'est pas l'amour pour un autre qui débarque de nulle part. Le coup de foudre n'existe pas. Au contraire, tu lui mets un gros coup dans sa gueule à la fin du film. Donc, je trouve que c'est quand même une grande évolution pour Disney qui n'avait pas l'habitude de faire ça. Quoi ?
Lilo et Stitch existent, qui est déjà une histoire. Bah, Lilo et Stitch, c'est une histoire plutôt sur l'amour entre sœurs aussi. Il y a pas de. Et qui, pour le coup, explore un peu plus le deuil des parents parce que tu sens que Lilo, la petite, elle est très fucked up par la mort de ses parents. Et t'as toute la storyline de sa grande sœur qui s'occupe d'elle avec tout ce que ça implique financièrement et tout.
Donc,
et tu vois, je trouve que c'est un. Pour le coup. Ils n'ont pas vraiment mis de logique romantique. Il y a juste un gars qui traîne avec eux où tu sens qu'il aime bien la grande sœur, alors qu'on passe quand même du temps sur celle-là qui n'a pas de pouvoir et celui-là qui a un reine. Et que tu sens bien qu'il okay, va y avoir l'un des deux avec
qui. J'adore ce refus, vraiment plein de mauvaises fautes, de nommer les personnages.
Je m'appelle quoi, tu parles. Ouais, c'est un problème de mémoire. Merci, votre honneur, de ne pas discriminer les gens sur leurs petits problèmes. Voilà.
En tout cas, moi, ce que j'aime dans La Reine des Neiges, c'est l'ambiance, le froid, la neige, la Suède, l'esprit un peu de Noël, parce que c'est sorti à Noël. Donc pour moi, je pense que je l'attribue à cette période-là. Mais c'est aussi voilà, l'amour entre sœurs, le courage, l'affirmation de soi, l'affirmation de son identité, l'apprentissage de ses émotions. Je trouve que c'est des bonnes valeurs à inculquer aux enfants. Et ça reste des meufs badass, en fait. Même si tu les détestes, c'est quand même des badass.
En soi, je les déteste pas. Je trouve pas que c'est des persos inintéressants. Je trouve juste qu'ils sont très mal exploités. Alors, celle-là qui a pas de pouvoir, j'avoue, elle me saoule un peu.
Anna.
Le côté... je vais courir partout, là là là. Mais ça me saoulait aussi chez Réponse, qui a ce côté-là. Et pourtant, je trouve que le perso est cool. C'est juste que moi, c'est pas le type de personnalité
Réponse,
qui m'intéresse.
J'ai envie de mettre des grosses tatanes.
Ben merci, merci beaucoup, Manon, pour cette instruction. Je sens que vous êtes quand même pas mal opposés.
Légèrement.
On va
ça
passer...
dépend où on met la priorité.
Oui, mais c'est vraiment une histoire de perception, finalement, comme toute la vie. On va passer maintenant au retournage de cerveau. Vous allez pouvoir prendre une scène du film pour ramener l'autre dans votre camp et le convaincre. Attention.
La consoeur a dramatiquement retourné sa fiche de notes.
C'est parti pour le retournage de cerveau.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Round two. Fight.
Alors, chacune, vous avez une scène. On commence par Mimi, qui est à l'accusation. Tu la replaces bien dans son contexte,
bien sûr,
comme tu sais faire. Et puis, ça viendra appuyer tes propos de l'instruction. Et c'est un peu comme une preuve. T'essaieras de faire passer Manon dans ton camp.
Bonne chance.
C'est parti, Maître Mimi.
Nous sommes au couronnement de la nouvelle reine d'Arendelle.
Arendelle.
Arendelle.
J'ai hâte d'accueillir tous les invités. Oh, et si je rencontrais l'homme de ma vie? Ce soir, je serai la plus belle, dans une tenue des plus formelles, une jeune fille raffinée et pleine de grâce. Il va apparaître tout à coup ce bel inconnu qui saura tout. Le chocolat m'aidera à faire face.
Le roi et la reine sont malheureusement décédés. Il faut couronner leur fille aînée qu'on n'a pas vue depuis très longtemps dans le royaume. Royaume qui compte visiblement 70 personnes. Toutes ces personnes n'ont pas vu l'héritière du trône depuis une décennie et demie, dans un geste de bonté envers ma consoeur, d'accord, pas plusieurs décennies. Est-ce que ça surprend des gens? Non, finalement très peu. Est-ce que ça surprend le personnel du château, cette cruauté qu'on a infligée à cet enfant? Pas du tout. Est-ce que quelqu'un se dit au moment de la couronner, dites donc la gamine, ça fait 15 ans qu'elle est enfermée, il faudrait peut-être qu'on fasse gaffe à comment elle va mentalement, peut-être qu'on peut revoir une partie de nos règles, voir si ça lui convient. Par exemple, peut-être qu'on pourrait la laisser prendre le sceptre avec des gants si elle y tient, vu qu'elle a pas l'air de trop lâcher ses gants. Mais non, car sinon il n'y a pas de film. Donc on ne va vraiment pas se poser de questions sur le fait de couronner quelqu'un qui est resté enfermé pendant 15 ans. Je sais pas si vous avez vu L'homme au masque de fer, chef-d'œuvre avec Leonardo DiCaprio, avant qu'il soit connu et qu'il fasse que des bons films. Il va pas bien quand il est libéré de sa prison, parce qu'il y est resté longtemps. Mais j'ai faut longtemps pour lui apprendre à être un bon roi. Mais apparemment, celle-là qui a des pouvoirs, on se dit que ça va marcher direct. Il n'y a pas besoin de la former plus que ça. Allons-y, très bien. Celle-là qui n'a pas de pouvoir pendant ce temps, c'est peut-être le jour le plus important de sa vie. Elle va déjà quand même devenir, je dirais, la seconde héritière, si jamais il arrive quoi que ce soit à sa sœur avant qu'elle ait des gosses. Et la sœur de la reine et tout. Et alors moi, j'ai vu The Crown. C'est important d'être la sœur de la reine. Hein. Il se passe plein de trucs. Il y a des injonctions. Il y a de la diplomatie à faire et tout. Mais est-ce que dans The Crown, la princesse se dit « Écoute, le jour du couronnement, je vais plutôt aller chiller dans la rue où il y a tout mon peuple en parlant des mecs que j'ai envie de ken ?» Non, mais dans La Reine des Neiges, c'est ce qui se fait. Puisqu'on a donc la princesse du château qui se balade en t-shirt, rappelons-le, à l'intérieur de la place et tout. Personne ne lui parle, personne n'est là. Incroyable, c'est la sœur de la future reine. Ouais, mais attends, pourquoi t'es pas au palais? On prépare des trucs. Non, bon. Elle passe sa journée de chill. Je pense que vraiment, un anniversaire, c'est plus compliqué en termes d'orga que ce couronnement qui a l'air de se passer très bien pour tout le monde, puisque la sœur de la reine n'a pas vraiment à y être pendant les préparatifs. Ok.
Quel
et ensuite, on a vraiment. Il faut. En fait, je pense qu'il y avait un post-it où il y avait écrit couronnement. Et un post-it où il y avait écrit il faut retrouver celle-là qui a des pouvoirs. Et il les regardait en se disant comment on fait le pont? On peut dire que. Elle prend le sceptre et elle pète un câble? Ouais, mais elle a des gants. On va lui faire enlever les gants. Mais pourquoi? Je sais pas, on dit que c'est une coutume. Ok, à la limite. Beaucoup de royautés ont des coutumes. Et ça se voit beaucoup dans The Crown. Il y a des fois des choses on ne peut pas. On ne peut pas changer.
On peut pas comprendre.
C'est la tradition. Très bien. C'est le
protocole.
Ça, à la limite, pourquoi pas. Josiane, elle prend son sceptre. Elle prend son orbe. Elle est là. Oh là, ça givre vite. Est-ce qu'elle se dit, je vais peut-être les reposer, dire attendez, je me sens pas bien. Même, franchement, n'importe quoi, plutôt que risquer d'enneiger l'intégralité de ton royaume où tout le monde est en t-shirt parce que c'est l'été. Lâche le sceptre, fais semblant de t'évanouir. Dis, oh là là, je dois faire pipi, fais ce que tu veux, tu vois. Mais ne pars pas comme ça en te disant, ça givre un peu, mais ça va bien se passer. Évidemment. Voix du narrateur. Ça ne se passe pas bien à la fin. Et du coup, elle s'enfuit, ce qui est aussi une réaction qui n'a aucun sens. Ce royaume de 70 personnes est très peu staffé, finalement, puisque c'est long de la retrouver dans leur propre domaine, qui est vraiment leur pays, qu'ils connaissent. Rappelons qu'elle n'est pas sortie de chez elle pendant une décennie et demie. Mais elle part, vraiment, elle part loin, dans la forêt. Elle connaît pas, elle y va, elle se balade. Pas vraiment habillée pour la saison, mais elle, c'est pas grave, parce qu'elle peut. Et c'est ça qui est censé être l'élément déclencheur du film. Et si l'élément déclencheur du film, il est d'une telle bancalité, comment tu veux que le film derrière, il tienne bon? C'est impossible. Je vais vous lire mes prises de notes pour cette scène. Elles sont courtes. Vraiment, le couronnement est un festival de what the fuck. Anna et Elsa qui parlent chocolat alors qu'elles devraient être trauma 4000. Anna qui se balade comme une paysanne et qui ne pense qu'à Ken. Le peuple qui se pose zéro question. Elsa qui pète un plomb et se barre. I need some vodka.
Voilà. Cette conclusion... Incroyable, merci Maître Mimi pour cette
merci votre honneur.
Pour ce retournage de cerveau. En tout cas, moi, vous avez plutôt bien réussi à me le retourner. Il faudrait que Manon, Maître Manon,
elle a redramatique. Sur... le retournage de cerveau de mon côté n'est pas du tout une scène où Elsa se barre en courant parce qu'elle a flippé. C'est plus une scène que je trouvais hyper intéressante. Donc, pour recontextualiser. Anna est partie à la poursuite de sa sœur qui s'est barrée dans la montagne, qui a créé un château, qui a dansé, qui a chanté, qui a fait plein de trucs, qui a libéré ses cheveux et jeté sa couronne. Anna est partie la retrouver.
Délivrer ses cheveux.
Exactement. Anna est partie la retrouver, sauf que Elsa n'est pas franchement d'accord. Elle se dit, ouais, ça y est, j'ai enfin ma liberté, ne venez pas me faire chier. Anna essaye quand même parce qu'elle est un petit peu trop une forceuse à ce niveau-là. Résultat, elle se fight sans le vouloir. Elsa envoie de la glace dans le cœur de sa sœur, donc elle lui gèle le cœur. C'est quand même horrible, pauvre sœur. Et Anna doit se barrer très vite pour échapper au gourou de sa sœur qui pète un plomb. Résultat, elle se retrouve à faire face à des trolls magiques qui donnent des conseils parce que c'est des trolls magiques.
Mais en chanson.
Mais en chanson,
car
évidemment.
Car c'est plus fun.
Bref, tout ça pour dire que ces trolls lui expliquent que seul un bisou d'amour peut la sauver. Comme c'est souvent le cas dans les contes, on va pas refaire l'histoire. Anna est persuadée que c'est Hans, le mec qu'elle a rencontré il y a 10 minutes, qui est forcément celui, son grand amour, qui pourra l'aider à la sauver. Elle part, elle fait tout pour...
Désolée, mais c'est pas une scène, c'est la moitié du film, là.
Je recontextualise parce que c'est une scène
finale. Ah, pardon.
Excuse-moi, Mimi.
Tu fais la scène finale, très bien.
Exactement.
On commence à... Anna court après machin.
Bah, en fait, oh, ça c'est minute 22 du film. Je suis obligée de recontextualiser tout le film puisque tu ne dis pas toutes les scènes depuis tout à l'heure et que tu les omets complètement. Donc je suis obligée
de
recontextualiser.
Ah, pour un film si mémorable, c'est étonnant.
Mais oh vas-y, là là,
on est sur la mauvaise foi.
La mauvaise foi est totale. Bref, Anna se retrouve dans le château avec Hans qu'elle n'a pas vu. Elle pense que c'est son grand amour. Lui lui fait croire que c'est aussi son grand amour. Elle lui demande de l'embrasser face au feu parce qu'elle est gelée, elle est en train de crever de froid et elle va mourir. Hans s'approche pour l'embrasser, puisque c'est son boulot, et lui dit, en fait, va crever, bitch, avec d'autres mots, parce que c'est pour les enfants, lui faisant comprendre que tout ce qu'il veut, c'est récupérer le royaume. Il refuse de l'embrasser, il la laisse crever, et son plan est d'aller buter Anna pour effectivement devenir le roi d'Arendelle. Hans passe en exactement 30 secondes du prince charmant cliché qui nous fait tout chier à gros bâtard quand même, qui ne devrait même pas exister.
Un baiser d'amour.
Oh, Anna. Si seulement quelqu'un était amoureux de vous.
Quoi ? Mais vous disiez que vous m'aimiez.
Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de tuer Elsa, afin de ramener l'été.
Vous ne vous en tirerez pas comme ça !
Oh ! Désolé, c'est déjà fait.
Et je trouve que cette scène est forte, parce qu'elle montre encore une fois l'évolution de Disney dans ses personnages, dans le traitement du conte de fées, en montrant bien que le mariage c'est nul, les mecs c'est pas franchement ça pour le coup de foudre, et que c'est pas ça le vrai amour, c'est pas ça qui va sauver Anna de la mort.
Eh bien merci beaucoup Maître Manon, vous êtes essoufflée de tant de véhémence dans vos propos, j'adore.
Du masque sur la
tronche. Vous êtes toutes les deux si passionnées.
Je peux répondre du coup ?
Oui, bien sûr.
Oui, je n'ai pas été convaincue. Vraiment, ce twist, en fait ce twist de Hans c'était méchant. Je trouve qu'il est intéressant, mais qu'il est un peu, vraiment, pour être sincère, je trouve qu'il est intéressant, mais complètement diminué par la présence de Christophe, car oui, je connais son prénom.
Christophe.
Car du coup, à partir du moment où il y a Christophe et il est sympa, alors peut-être pas les enfants pour le coup, mais vraiment, quand t'as déjà vu plus de deux Disney dans ta vie, t'es là, ok, donc, si Christophe est sympa, probablement qu'elle va pas finir avec Hans, donc soit il va se sacrifier, soit en fait, c'était un méchant et pas un bon parti.
Oui, mais ça, tu vois,
sachant que sa sœur lui a dit, texto, il faut pas avoir un coup de foudre du premier coup, tu le connais pas. C'est un peu capillotracté, en tout cas pour un regard d'adulte. Donc malheureusement, je trouve que ce twist ne marche pas, puisque c'est évident à partir du moment où il y a deux mecs qu'il faut qu'il y en ait un qui saute. Disney n'est pas adepte des triangles amoureux de ce style-là. Donc voilà, malheureusement, je vois pourquoi cette scène est cool. Et en fait, isolée, elle est cool. Mm-hmm. Je trouve que dans le film, elle n'a absolument pas la puissance qu'elle aurait pourtant mérité d'avoir. Tant pis.
Merci à vous deux pour ce retournage de cerveau, ma foi, violente. On va passer tout de suite au jugement et j'espère que vous serez plus d'accord. Et je n'en pense pas un seul mot.
Final round. Fight.
C'est l'heure du jugement. Alors, chacune, votre tour, vous allez infliger des peines au film et vous tenterez de vous mettre un peu d'accord dessus. Donc, vous pouvez proposer vos peines. Maître Mimi, on commence par vous.
J'ai été, je pense, juste et mesurée dans ma réquisition auprès du procureur. C'est-à-dire que je demande perpétuité, voilà, pour offense globale à son public, qu'il soit grand ou petit. Perpétuité pour ce film, dans une prison avec idéalement des cours de scénario, des choses comme ça. Possibilité quand même, je ne suis pas un monstre, de remise de peine et de liberté conditionnelle, car il y a eu des efforts de fait. Et encore une fois, le 2 est mieux. Donc on peut apprendre de ses erreurs, mais il va falloir taffer quand même pour sortir complètement.
Et il faut quand même noter que le 2 est mieux, alors que le 1 avait cartonné, donc ils auraient pu continuer dans cette lignée.
Tout à fait.
Et ils ont quand même changé les choses.
C'est pas révolutionnaire, mais c'est mieux.
Le 2 est quand même très cool.
et un petit 3 ans de travaux d'intérêt général, le temps de faire une licence en linguistique afin de se rappeler que « The cold never bothered me anyway » ne peut pas se traduire par « Le froid est pour moi le prix de la liberté ». Ça veut dire l'inverse, ça ne marche pas.
Ah, elle a jeté son téléphone, elle a fait un drop the...
Pardon
pas
pour ton casque, j'ai peut-être crié dans ton casque.
Non, non, c'est parfait ce petit drop, voilà. J'espère que tout le monde l'a entendu.
Réquisitoire raisonnable.
Manon ?
Alors, j'ai pas fait de peine pour le film en général, j'ai vraiment fait pour les personnages, du coup. Et donc, j'ai mis une peine de prison. Je pense que la perpétuité serait pas mal pour Hans, pour se comporter comme le dernier des cons et des connards et des... Oui, des bouffeurs de
bah, écoute, peut-être qu'il gérerait mieux que Josiane enfermée pendant 15 ans et sa sœur qui se pose peu de questions. On ne sait pas.
Je suis pas vraiment sûre, parce que dans le 2, on voit quand même que Elsa, en tant que reine, elle gère. Elle gère, et ensuite ce sera à Anna de gérer. Donc non, non, j'y crois pas. Et je pense que, encore une fois, on peut pas juger un boulot alors qu'on n'est même pas prétendante au trône. Tu vois, c'est compliqué. Ensuite, je mettrai des travaux d'intérêt général pour Olaf, pour lui apprendre à se mêler de son cul et... et arrêter d'ouvrir sa gueule en permanence et qu'il aille se rapprocher d'un radiateur. Et ensuite, je mettrai quand même une petite formation sur à peu près, je sais pas moi, sur 45 heures, tu vois, un truc comme ça. Une formation à la vie réelle pour Anna, parce qu'elle est complètement à côté de la plaque. Mais bon, elle a vécu enfermée, blablabla, syndrome de Stockholm, on sait pas. Mais quand même, je pense qu'elle aurait vraiment besoin d'apprendre ce qu'est la vie avant de se lancer à moitié à poil dans le royaume avec une robe en plein hiver. Enfin bref, ce genre de petites choses. Voilà.
Eh bien, super. Vous êtes... Franchement, vous avez toutes les deux donné des peines. Donc, ça va. J'ai l'impression qu'on est plutôt sur une entente de ce jugement.
Tu prends mon perpète et je prends ton perpète pour Hans.
Allez.
Allez. Wow. À la mi-perpète au film, j'ai gagné.
Perpète.
Voilà. Bonne soirée tout le monde.
En pensant qu'on était d'accord pour Olaf, j'ai été sympa parce que je crois en l'esprit de la magie de Noël.
Et
de l'amour le vrai. De l'amour le vrai, celui de la sororité.
Oh,
mais quand même, c'est bien d'avoir un mec à la fin du film. Hein.
Ouais. Parce que tout dépend si t'as eu des glaçons. Bon.
Merci vraiment à toutes les deux pour ce procès qui a été, contrairement à la Reine des Neiges, volcanique. Votez dans les commentaires sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles et merci à toutes les deux d'avoir participé.
Merci votre honneur.
Merci votre honneur, bisous.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous propose de vous rendre sur Apple Podcast pour nous laisser un petit commentaire qui dira de quelle série ou de quel film vous souhaiteriez qu'on débatte dans le prochain épisode d'Affiché. Bien sûr, mettez-nous aussi 5 étoiles si vous avez kiffé et parlez de ce podcast à vos amis. Je vous laisse et à très vite pour un nouvel épisode d'Affiché.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.